À la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fiston Mwanza Mujila. Bonjour Fiston.
Bonjour madame.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Fiston Mwanza Mujila, vous êtes poète et romancier. Vous avez reçu de nombreux prix littéraires à la suite de votre premier roman qui a été salué par la critique. Vous publiez à cette rentrée un nouveau livre intitulé « La danse du vilain » qui est dans la sélection du prix Veplaire. Et Fiston, on dit de vous que vous êtes une des nouvelles voix de la littérature congolaise.
Mais aucune idée. ce qui m'intéresse, c'est de faire mon petit bonhomme de chemin. C'est-à-dire que pour moi, écrire, déjà, c'est un travail personnel, c'est un travail familial. Je me considère plutôt comme le griot de ma famille. Mais en même temps, avoir cette reconnaissance-là, pour moi, ça me fait du bien.
Alors, je dois dire que j'aime beaucoup votre prénom.
Oh, merci.
Quel joli prénom, Fiston.
Oui, c'est très simple et puis élégant. J'ai grandi toujours jeune. Je suis déjà vieux, mais je suis toujours fiston.
Mais vous êtes jeune encore.
Ouais, mais ça dépend. Parfois, je me considère quand je travaille, quand j'écris de poèmes, que je suis un centenaire. Et j'ai vraiment cette impression-là d'être centenaire. Mais quand je suis heureux, je suis un petit garçon de 10 ans.
Et là, en ce moment, vous avez quel âge alors?
8 ans.
Pas mal. Alors Fiston Mwanza Mujila, vous avez choisi comme journée particulière le 17 mai 1997. Ce jour-là, le président Mobutu Sese Seko s'enfuyait du Zaïre après 32 ans de règne.
Il ne s'imaginait pas en homme du passé. Indétrônable maréchal, grand chef africain devenu piètre chef d'État, en 32 ans de pouvoir, jamais il n'a douté de lui et de la fidélité de son peuple. Jusqu'au bout, le maréchal se croyait à l'abri du naufrage, se voyant en sauveur fortuné d'un pays qu'il avait pourtant ruiné.
C'est depuis toujours que nous avons demandé à ce que M. Mobutu parte, c'est parce qu'on en a marre de lui. Hein? On en a marre vraiment, donc c'est difficile. Alors là, on est vraiment très très joyeux. Hein?
Aujourd'hui, Mobutu Sese Seko tourne le dos à l'histoire, lui qui, après 32 ans de règne, rêvait d'être le premier président élu par le peuple, au Zaïre.
Vous aviez quel âge en 1997, Fiston Mwanza Mujila ?
J'avais 16 ans.
Et alors, quel souvenir vous gardez de ce jour-là ? Vous étiez à Lubumbashi, dans votre ville ?
Oui, j'étais à Lubumbashi, en famille. Vous savez, moi, je suis né dans une dictature. On a vécu cela de près. Et donc, il se trouve que tout le monde attendait le départ de M. Mobutu. C'était une grande joie, une euphorie. Je me rappelle comment les gens... Il y avait des accolades, la bière coulait. Et voilà, parce que tout le monde disait, je ferai ceci quand Mobutu partirait, je me marierai quand Mobutu partirait, j'ouvrirai une boîte de nuit quand Mobutu sera parti en exil, et puis voilà. Mais quand Mobutu est parti, c'était une libération, il y avait une euphorie, et moi, cette journée reste gravée dans ma mémoire. Je me rappelle que c'était jusqu'au petit matin, les gens ont dansé, et puis voilà, c'était merveilleux.
Les langues se sont déliées, parce que c'était une dictature, le régime de Mobutu. On a commencé à parler dès ce soir-là, on parlait librement.
Mais il faut dire qu'au Congo, il y a la culture de l'amnésie, hein, parce qu'on a eu la période coloniale est restée sous silence, et même la période de Mobutu, parce que tout simplement, quand Kabila est arrivé au pouvoir, il est arrivé avec le concept de la révolution par temps. C'est-à-dire qu'il y a des pans de l'histoire du Zaïre qui sont restés dans les tiroirs. Hein. Et donc, les langues, jusqu'à ces jours, ne sont pas encore déliées parce que c'est une période sombre. Et tout le monde avait cette envie-là de tourner la page. C'est ce qui fait que Kabila, directement dans la foulée, changeait le nom du pays. Donc, nous étions des Zaïrois. Du jour au lendemain, on se retrouvait d'une minute à une autre, d'une seconde à une autre. On se retrouvait, on est devenu de Congolais. Et le fleuve est devenu le Congo. Ben, c'est déjà de part cette culture d'amnésie, d'oublier ce passé de Mobutu.
Vous êtes en train de me dire, Fiston Mwanza Mujila, que ce 17 mai 1997, vous avez commencé à vivre dans un autre pays, dans un pays qui portait un autre nom.
Oui, pour moi, le Zaïre, je le dis toujours, le Zaïre et le Congo sont deux pays différents avec la même population.
Alors ça veut dire quoi?
Comme les militaires de Kabila sont arrivés à Lubumbashi, il y en a qui faisaient du porte à porte. Et donc, du coup, on était parfois obligé de brûler les archives. Mon père avait beaucoup d'archives de Mobutu, de disques sonores, de livres, parce que mon père toujours était un archiviste. Et c'est quelqu'un qui a cette passion-là de collecter. Et donc, sa chambre, c'est comme un cabinet de curiosité. Et du coup, quand Kabila est arrivé au pouvoir, on ne voulait pas avoir des démêlés avec le régime. Et puis, mon père a brûlé ses documents. Il avait ces documents de Mobutu, mais il n'était pas mobutiste. Voilà, c'était quelqu'un qui collectait l'histoire du pays à sa manière.
Alors, on va écouter Mobutu encore une fois.
Parlons démocratie. Ça ne va pas dans un pays africain parce qu'il y a un parti unique ou un parti national, comme c'est le cas au Zaïre. Tout simplement parce que on n'a pas copié l'Occident où vous avez les partis de gauche, les partis du centre, les partis de droite, des conservateurs, des centre-droite, centre-gauche. Mais ça ne veut rien dire pour un Africain authentique, et je le suis. Allez dans n'importe quel village africain, il n'y a jamais eu un seul village avec le leader de la majorité au centre du village, le leader de la minorité, de l'opposition à gauche et tout ça. Eh bien, ça dit, chez vous, vous dites si bien, du choc des idées jaillit la lumière. Ici, on se met les uns à côté des autres. Eh bien, nos idées, on les met ensemble autour du chef. Le chef, c'est le symbole de l'unité, le symbole de la paix.
Fiston Mwanza Mujila, vous êtes très attentif, silencieux, en écoutant cette voix de Mobutu. C'est un mauvais souvenir, ça dit très clairement ce qu'était le régime.
Mais je pense que Mobutu est un être paradoxal, pas seulement de mauvais souvenirs, parce qu'il faut reconnaître que Mobutu nous a, d'une manière ou d'une autre, donné cette fierté d'être Congolais, d'être Zaïrois à l'époque de Mobutu, parce que c'est quelqu'un qui avait du charisme, c'est quelqu'un qui cherchait à tout prix à faire respecter ce pays-là. Vous savez, le Congo est un pays gigantesque, c'est le deuxième pays en Afrique par sa superficie. Un pays entouré de 9 provinces avec de montagnes, de collines, avec l'un des plus longs fleuves au monde. Mais avec Mobutu, il savait mettre cette cartographie, les splendeurs du Congo en lumière. Il faut reconnaître cela. Mais en même temps, c'est pas un tyran, mais c'est quelqu'un qui tirait les draps de son côté. Mais c'est un dictateur. Voilà.
C'était un dictateur qui a ruiné le pays.
Qui a ruiné le pays, hein, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on est dans les sales draps, passez-moi l'expression, d'une part à cause de ce monsieur-là.
Qui était, à la fin de son règne, une des 5 plus grosses fortunes du monde, dans les années 80.
Ouais, vous imaginez, alors que, vous savez, le grand problème avec le Congo, c'est la corruption. C'est la corruption qui a tué ce pays, la corruption et le détournement des fonds. Mais cette culture est partie déjà de l'époque de Mobutu. C'est-à-dire qu'on a eu l'indépendance qu'on n'a pas su gérer. Vous imaginez, à l'époque quand on a arraché l'indépendance, il y avait pas une centaine d'intellectuels, mais actuellement, il y a des milliers d'universitaires, mais le pays est toujours dans le marasme. Et paradoxalement, les gens qui ont travaillé avec Mobutu se retrouvent aujourd'hui dans les coulisses du pouvoir et ils ont le toupet de parler de démocratie.
En 1997, Fiston Mwanza Mujila, vous écoutiez certainement ce classique de la rumba congolaise.
Kana kisasa, ma bala toko bala kana mokili, Oko linga mwasi mwasi azali na bato, zoko linga kie mokola liboso mona kie, aye bakate o, mama, Oko linga mwasi mwasi azali na bato. Kolinga kie mokola liboso mona kie Aye bakate o, o mama
Mwasi aye bakasi mai Soki ozala ki kolinga ye Bajesta zala ki kosalela yo Ako ya kokie bayango si mai Wana okomi na mapoko ya moto mosusu Bolingo nzamba tinda na mokili Motema elinga oyelingi Motema eboya oyelingi Oya koboya yo okanga maboko
Famiba panzani po bakabo la bevitation Basi bakoya po batala mwasi nini obale Mi bali bakoya po batala mobali mwasi abale Famiba panzani po
bakabo Mwanza Mujila, c'est Franco
Franco Lombomba qui a dit duo magnifique avec Madilou System. Madilou System, moi, il me manque parce que c'est avec cette voix de velours, c'est l'un de grands chanteurs congolais parce qu'il y a musicien et chanteur. Chanteur, on dit aussi en Lingala Alang Nzembo. Madilou, c'est vraiment un Alang Nzembo parce que là, c'est une voix. Parce que la rumba, c'est d'abord la voix. La voix, la guitare et le Franco et Madilou, c'est cette voix là magnifique qui a bercé mon enfance.
C'est ça, parce que dans le vous aviez un grand-père, Fiston Mwanza Mujila, qui avait un bar à Lubumbashi, même, hein, c'est ça?
Oui, à Lubumbashi. Mais moi, je suis petit-fils de barman et j'en suis fier parce que des fois on a une image assez étriquée du bar ou du barman. Mais on dit barman, ça va avec l'embonpoint et puis tout et tout. Mais mon grand-père était un magnifique barman parce que pour lui, c'était pas seulement un bar, c'était une assemblée, c'était un lieu où les gens arrivaient. Après le boulot et ses clients c'était presque ses amis je me rappelle comme il tenait son bar à deux avec ma grand-mère il s'embrouillait parce que le grand-père avait toujours l'habitude des fois d'offrir la bière à ses clients c'était pas un bar c'était comme une église et moi je me rappelle ça fait partie des plus belles pages de mon enfance la rumba c'était du matin jusqu'au soir Franco Lombomaka dit Seigneur Roche Taboulet Rochero tout ce genre Billy Abel la reine Billy Abel Tchala Moana moi c'est mon enfance, j'ai pas fait de cours de Lingala, mais j'ai appris le Lingala parce que, indépendamment de ma bonne volonté, à mon corps défendant, j'écoutais cette rumba du matin au soir.
Dans le bar de votre grand-père, où vous donniez un coup de main l'été, c'est ça vous
Oui, ouais, c'est ça. Pendant les vacances, on y travaillait, un coup de main comme ça, et voilà, on rangeait les caisses de bière, on servait, voilà, pour moi, c'est des périodes magnifiques. Quand je pense à cela, je pense à mon grand-père, Athanase Mbakabuya et ma grand-mère, une grand-mère magnifique, Julienne Momonza, qui ne parlait jamais. J'ai jamais vu, c'est étonnant, j'avais vu ma grand-mère sourire. Je pouvais réaliser des exploits à l'école, mais elle était d'une sobriété extraordinaire. Et là, parfois, je me dis, mais qui était cette dame-là?
Alors, dans ce bar pour vous, Fiston Mwanza Mujila, c'était le lieu des mythologies contemporaines congolaises. C'est là que vous avez fait, c'est là que vous avez compris, appréhendé les mythes de ce pays.
Oui, oui, les mythes, pour reprendre les mythologies, pour reprendre Barthes, avec l'âge, pour moi, je me suis rendu compte que le bar n'était pas seulement un lieu où les gens venaient se saouler, mais c'était une église, c'était un temple. Et donc, à partir de ça, je commençais à comprendre qu'est-ce qu'était le Zaïre. Et le Zaïre ou le Congo, c'est ces mythologies comme le bar, qui est un espace magnifique de splendeur.
Et vous avez parlé de Roland Barthes, on l'écoute.
Est-ce que ce mythe que vous nous représentez comme nous entourant, enfin comme une espèce de microbe qui est dans l'air même que nous respirons, est-ce que ce mythe, vous le considérez comme lié uniquement à notre société bourgeoise du milieu du XXe siècle, ou est-ce qu'il vous paraît lié, plus ou moins, à toute forme de société?
Ça, c'est une question très redoutable, parce que, n'est-ce pas, un homme qui est engagé dans une époque ne peut pas sans grand risque assumer de penser toute l'histoire. Mais alors justement, moi, l'espèce de, si vous voulez, de rigueur et de faiblesse en même temps que je me suis imposé, c'est de ne pas essayer de penser au-delà de ma propre société. Alors je ne sais pas du tout ce qui se passera si la société change. Est-ce qu'une société sans mythe est impossible? Vraiment, je ne peux pas répondre à cette question, n'est-ce pas? J'ai accepté une fois pour toutes de me placer dans une nuit de l'avenir, mais dans une très grande lumière du présent, si j'ose dire.
Archivina de 1957, la voix de Roland Barthes. Fiston Mwanza Mujila, vous aimez puiser dans ces mythologies congolaises pour écrire, et vous aimez questionner ces mythes. Ça vous inspire, en fait, cette mythologie congolaise?
Oui, ça m'inspire. Tout mon travail de romancier, c'est d'identifier ces mythes-là et de les fictionnaliser, de les questionner. Par exemple, le mythe du fleuve, le fleuve Congo, la plupart des Congolais disent bon, on a un fleuve extraordinaire, immense. Et moi, je questionne ces mythes-là parce que pour moi, le fleuve Congo, c'est pas seulement la splendeur, mais c'est aussi un gâchis, parce que ce fleuve-là ne se jette pas dans l'océan, selon moi. C'est un fleuve qui se défenestre, qui se suicide dans l'océan, parce que c'est un fleuve au chômage, parce qu'on n'en profite pas assez de ce fleuve-là.
L'Afrique, le monde noir, la tradition, le passé, le présent, l'avenir. Soleil. Notre émission d'aujourd'hui sera entièrement consacrée à un des plus grands fleuves africains, le Congo, qui porte aussi le nom de Zaïre. Mais pour l'instant, je me tais pour laisser parler le fleuve.
Une archive INA de 1975, une émission de RFI sur le fleuve Congo.
Magnifique.
Ça vous plaît?
Ça me plaît.
Et d'entendre ce fleuve?
D'entendre ce bruissement qui me rappelle un peu une partie de ce pays-là, parce que le fleuve Congo n'est pas seulement un fleuve, c'est aussi la colonne vertébrale de ce pays, parce que c'est ce fleuve qui unit ce pays-là, du Katanga profond jusqu'à l'embouchure.
Mais vous dites aussi que dans ce fleuve, quand il y a des conflits, c'est un fleuve qui charrie les corps.
C'est un fleuve qui charrie les corps parce que tout simplement, il y a des corps à l'époque de Mobutu qui ont été défenestrés dans ce fleuve-là. Et c'est un fleuve qui est un animal, qui est une bête sauvage, parce que c'est un fleuve qui parfois est indomptable. Et donc pour moi, ce fleuve a ce paradoxe-là, c'est la splendeur, mais en même temps, c'est un monstre marin. Je pense que chaque année, il y a des naufrages dans ce fleuve-là. Et donc pour moi, je suis sûr et certain, dans le fleuve Congo, à l'intérieur de ce fleuve-là, il y a des grandes villes, des villes immenses, extraordinaires, et des gens vivent dans le fleuve. parce que c'est paradoxal que ce fleuve ne soit pas habité.
C'est ce que vous écrivez dans votre roman sur le fleuve Congo. Vous avez une page comme ça dans votre roman, donc La danse du vilain, où vous dites que vous y voyez des boulevards ensoleillés par d'innombrables lampadaires, des restaurants, des salles de musculation, des bordels, des boulangeries. Bref, tout ce dont une ville cosmopolite peut se targuer. La population du fleuve, renchérissait le bonhomme, était aussi colossale que celle de toute l'Afrique tropicale réunie. C'est-à-dire, vous le voyez comme une ville, ce fleuve, une métropole.
Oui, pour moi, le fleuve, c'est vraiment une ville. Parce que je suis sûr et certain, tous ces gens qui meurent dans le fleuve, ils laissent quelque chose, une partie d'eux-mêmes. Donc, pour moi, ce fleuve, c'est un pays. Ce fleuve, c'est un continent. Ce fleuve, c'est une planète. Mais ce qui est extraordinaire aussi avec le fleuve Congo, c'est que aujourd'hui, le Congo a... En fait, c'est un pays qui est exempt, ses minéraux sont pillés, tout est pris, mais ils peuvent pas prendre, ces rapaces-là ne peuvent pas prendre ce fleuve Congo. Je pense qu'il y a la Rumba et le fleuve qui nous reste.
Alors.
En guise de paradis.
Et de mythologie aussi.
Et de mythologie.
Autre mythologie, fiston, et là vous allez tout de suite le reconnaître.
Koma kibiso na mboka nipona Rota o pambapa Ye koma kibiso na mboka nazie Porsche benzula mbula Kinshasa ba cheye ba romain Mikili ba zulu ba nyunjake Kao koko korobo Teki sa pelilika Les ondi font double mabe Kamozona kingwe bende
Papa Wemba, un autre mythe, hein? Et alors, cette chanson-là est très importante. C'est une chanson sur les enfants de la rue. Mmh. Et les enfants de la rue font partie aussi de la mythologie congolaise et sont parmi vos personnages principaux de votre dernier roman.
Ce sont pas parmi mes personnages principaux. Et Papa Wemba est l'un de ceux, ou si pas le premier congolais, artiste congolais, à donner vie à ces enfants-là. Avec, il disait chez les chancelots copains, c'est-à-dire que un enfant de la rue a toujours une deuxième, troisième chance. Et donc Papa Wemba, fut un personnage magnifique en tant que musicien d'abord, parce que il a eu à se régénérer, à s'accommoder à toutes sortes de styles musicaux. Ça, vous imaginez, par exemple, dans les années 80, Papa Wemba, il a créé ce qu'il appelait Rumba Rock. Il y avait un cri magnifique. Rumba Rock French! Rumba Rock French! Rumba Rock French! C'était magnifique. Beaucoup de guitares électriques, beaucoup de batteries. Batterie héritée d'un instrument de musique qu'il a introduit dans la rumba, le locolé. Et quand il est parti avec ces chansons-là, ce rythme de rumba rock au Japon, c'était une euphorie. Et à son départ, il y a eu de groupuscules de groupes qui se sont créés au Japon. Et donc, ça, c'est le côté musical de Papa Wemba, mais aussi l'autre côté de la sape, de l'élégance.
Ouais, c'était le roi de la sape.
Le roi de la sape, mais il avait aussi ce penchant pour le Japon, mais aussi pour les couturiers japonais.
さびさを忘れるために飲んでいるのに酒は今夜も私を悲しくさせる酒よどうしてどうしてあの人を諦めたらいいの諦めたらいいの
Fiston Monza Mujila, qu'est-ce qu'on entend là?
C'est une diva japonaise, Ibari Bisari, qui
apparaît dans votre roman aussi, que je ne connaissais pas, je vous avoue. C'est grâce à vous que je l'ai découverte, qui est assez formidable.
Oui, c'est une de grandes voix de la chanson japonaise. Et donc, c'est magnifique. Et voilà, donc moi quand j'écoute Mambo de la fête, le pommier à la croisée de chemin,
c'est des chansons qu'elle chante.
Oui, qu'elle chante, elle est magnifique sa voix.
Et le Japon fait partie des mythologies congolaises contemporaines?
Oui, le Japon, parce que tout simplement, Papa Mba est allé au Japon, et le Japon, c'était l'alternative à l'Europe pour beaucoup de jeunes, même Papa Mba. Et donc, le Japon, oui, le Japon...
L'autre alternative à l'Europe pour les jeunes qui voulaient fuir le pays?
Pour les jeunes qui voulaient fuir le pays, le Japon et l'Angola. C'est-à-dire que le Japon représentait cet autre Congo, cet autre moi. Par exemple, au Congo Brazzaville, à la SAP, c'est toujours un terme de costume cravate. Et Papa Mba, la SAP du Congo Kinshasa, c'est un peu
japonisant,
décomplexé, avec beaucoup d'extravagance. Et donc Papa Mba a presque introduit dans la SAP congolaise du Congo Kinshasa ces vêtements japonais qui sont dans l'ordre de l'impérial, de la deux mesures. C'est magnifique.
Coltrane, Naïma, c'est pour vous, fiston Mwanza Mujila?
Oui, oui, peut-être je suis un passionné de jazz. Au passage, il y a aussi un concert magnifique de Coltrane au Japon, que 4 heures de folie, de bonheur, d'intensité. Il fait partie de mes ancêtres. Je suis dans sa généalogie.
De Coltrane?
Oui, oui.
Ah oui. Quelle chance d'avoir Coltrane comme ancêtre.
Parce que pour lui, le jazz, c'était pas seulement le jazz, c'est aussi une religion, une spiritualité. Pour moi, c'est pareil pour l'écriture. Quand j'écris, c'est comme si j'étais dans une, c'est comme si c'était une prière, comme une vocation, comme un voyage. Et donc, j'ai ce rapport, spirituel à l'écriture. L'écriture, c'est quand j'écris, c'est comme si je communiquais avec les divinités, avec les Bakishi. Chez nous, le Bakishi, c'est les ancêtres. Mais donc, l'écriture, pour moi, est une forme de sacerdoce. Il y a le travail de l'écrivain, mais aussi il y a le travail personnel.
Mais fiston Mwanza Mujila, ça veut dire que Coltrane chuchote à vos oreilles quand vous écrivez?
Oui, oui, quand j'écris, j'écoute Coltrane. Parfois, quand j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour écouter, par exemple, l'un de ses derniers concerts, au lendemain du concert. Et là, quand il joue au saxophone, c'est comme si c'était un animal qui criait. Et là, on sent que il a poussé le jazz jusqu'aux confins de la démocratie, jusqu'aux confins de l'imaginaire.
Fiston Mwanza Mujila, quand vous écrivez, vous avez l'impression d'écrire de la musique aussi? Comme des notes? Comme une partition?
Ouais, je défini comme un musicien, ben pour moi la langue est un instrument de musique, donc j'ordonne, je sais pas si ce mot existe, j'organise mon texte comme un compositeur. Pour moi la langue, c'est j'écris avec ou je compose avec les mots.
Alors jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière du romancier Fiston Mwanza Mujila. Vous avez choisi le 17 mai 1997 comme journée particulière, c'était la fin du règne absolu de Mobutu. Fiston Mwanza Mujila, vous êtes arrivé à la littérature par le biais de la poésie?
Oui, pour moi la poésie, je me définis comme un poète qui écrit des romans. Pour moi la poésie fait partie de mon quotidien. Je pars toujours de la poésie pour écrire des romans.
Et qu'est-ce que ça veut dire que vous partez de la poésie pour arriver au roman?
J'écris au moins chaque jour, j'écris au moins un poème ou deux poèmes, parce que tout simplement, je dois faire travailler la langue française. Je vis en Autriche, je ne pratique pas le français au quotidien, et donc quand vous ne parlez pas la langue 2 mois, 3 mois, vous commencez à oublier la langue, c'est la spontanéité. Du coup, j'ai l'habitude de réchauffer ma langue, de garder au chaud le français.
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A noir corset velu des mouches s'éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre. E candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers. Roi blanc, frisson d'ombelle. I, pourpre, sang craché, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême clairon, plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Ô, l'oméga, rayon violet de ses yeux.
Rimbaud,
voyelle de Rimbaud lue par Laurent Terzieff. Fiston Mwanza Mujila, Rimbaud, c'est aussi un de vos ancêtres, comme oui. Coltrane.
Coltrane, c'est vraiment un ancêtre. Parce qu'avant Rimbaud, je lisais beaucoup la poésie classique. Et puis, quand vous disiez Rimbaud, c'est un choc. Et donc, il fait partie de ce repère, hein, de mes ancêtres, de mes écrivains et poètes de chevet.
Avec Verlaine.
Verlaine, le surréaliste, Paul Éluard, Aragon, mais aussi avec d'autres écrivains de partout, qui j'ai une passion, je sais pas comment le dire, mais une passion assez maladive pour les écrivains morts jeunes, les poètes morts jeunes. Il y a Rimbaud, il y a Kosovel, et donc moi je m'intéresse à ces écrivains, parce que j'ai comme l'impression qu'ils ont achevé en quelques années ce que nous autres devons mettre un siècle pour écrire.
Fiston Mwanza Mujila, quand vous écrivez, qu'est-ce que vous faites à la langue, à cette langue française? Vous la malaxez, vous la pétrissez? Qu'est-ce que vous faites au juste? Parce qu'il se passe des drôles de choses dans vos romans avec la langue.
En fait, je me considère comme, non pas comme un écrivain, mais comme un artisan. Mais le mot artisan en français, il est un peu complexe parce qu'il y a le mot art. Je préfère le terme de Handwerker en allemand parce que là, il y a.
Handwerker.
Il y a Hand, la main. Vers le travailleur. Pour moi, je me considère comme un ouvrier autodidacte. Donc, j'essaie d'utiliser la langue comme je peux, comme si j'étais un mécanicien. Et du coup, pour moi, la langue, elle est toujours inachevée. Je fais de la langue française quelque chose de mien, comme si j'étais dans le bar de mes grands-parents. Donc, pour moi, cette langue, j'essaie de l'utiliser, de la malaxer, de faire de cette langue une paradis. Et donc, quand j'écris, je structure la langue, mais en même temps, je chante la langue. J'ai toujours l'habitude de lire. Je peux, par exemple, dire, quand je travaille sur un texte, en disant, par exemple, « Je suis le soleil, je suis la lumière. Je suis le soleil. Je suis la lumière. Je suis le monde qui déambule. Je suis le soleil. Le soleil. Je suis le soleil, le soleil.
C'est ça que vous voulez qu'on entende quand on vous lit?
Mais je m'amuse quand j'écris, je fais ce travail sur la langue même en disant le texte, et du coup ça influence aussi le texte écrit. Parce que pour moi j'écris et je dis le texte, et puis je retourne à l'écrit, donc je fais ces va-et-vient.
Oui, mais vous ne faites pas seulement le dire, votre texte. Là, vous m'avez fait un numéro. Vous êtes très sage depuis le début de cette émission, et là, j'ai vu un autre fiston apparaître.
Oui, en fait, je travaille aussi avec beaucoup des musiciens de jazz, et donc j'aime dire le texte, pas seulement mes textes, parce que je trouve que c'est beaucoup de bonheur de dire un texte de Boffin, de Sammy Chak, de Mabankou, même de Roland Barthes. Il y a des textes comme ça, tu prends la première mythologie de Barthes, je pense, sur le catch, c'est un texte magnifique à dire, à chanter, à crier.
Alors, vous avez parlé d'Alain Mabankou, vous avez parlé de Jean Boffin, qu'on a reçu dans cette émission avec un grand plaisir. Ce sont vos aînés, vos références, vous êtes fait partie de la même fratrie aussi littéraire.
Ouais, pour moi, c'est vraiment des grands frères. Beaucoup d'affection pour Mabankou et Jean Boffin, et même Sammy Chak. Pour moi, c'est des aînés, des modèles. Je pense qu'il faudrait avoir, comme écrivain, je pense, des références. Et pour moi, c'est gens qui me nourrissent.
Le monde et mon langage est un livre qui montre que nous n'avons pas simplement à regarder ce qui se passe sur les rives de la Seine. C'est un livre aussi qui refuse le pessimisme ambiant qui existe souvent en France, où on se voit en petit, on se pense en petit, on pense au déclin de la langue française, on pense au déclin du génie français, on pense que la France serait la dernière de la classe. Eh ben, dans le monde de mon langage, c'est plutôt l'exercice qui consiste à quitter les frontières germano-pratines pour aller voir dans le monde comment le concert des langues se mélange et comment des gens inattendus vont vous dire beaucoup, mais en langue française.
Alors, Fiston Mwanza Mujila, pour Alain Mabankou, vous faites partie de ces gens inattendus qui vont nous dire des choses nouvelles dans la langue française. Je le cite, il a parlé de vous dans ces termes, dans un article de presse. Il dit « Arrive un petit bonhomme de la rue qui porte des haillons et parle avec cette force à défier toute la littérature. » Attendez, ne riez pas tout de suite. On a l'impression que c'est écrit en français, mais en réalité, tout est écrit dans sa langue. Il n'y a que les mots qui sont mis en français. Vous êtes d'accord avec Alain Mabankou?
Tout à fait, je suis d'accord.
Vous essayez de créer une nouvelle langue, Fiston Mwanza Mujila.
J'essaie de créer une nouvelle langue. J'essaie de partir de la langue française pour créer une langue qui, comme le fleuve, charrie les influences, charrie le peuple, charrie les imaginaires. Pour moi, écrire, c'est aussi, à partir de la langue, créer une forme de cosmopolitisme intérieur.
Mabankou disait aussi qu'il fallait avoir pitié de la langue française, que les auteurs africains devaient avoir pitié de la langue française, en lui disant « Ma pauvre petite langue, tu portes des habits d'hiver pendant que nous sommes en été, tu n'as pas telle fleur, tu n'as pas telle faune, tu es incapable de symboliser, pourtant tu fais des grandes théories, mais tu es incapable. »
Ouais, je pense qu'en tant qu'Africain, on a d'autres langues dans le ventre, parce que la langue maternelle, des fois en Swahili, on dit une langue du ventre. Je pense qu'on a d'autres langues dans le ventre, et donc quand on écrit en français, on écrit aussi avec tout ce qu'on porte comme imaginaire.
Et avec toutes ces autres langues que vous avez dans le ventre. Vous avez quoi dans le ventre?
J'ai le Swahili. Et puis j'ai le Lingala, et puis le Chiluba qui est la langue de mes grands-parents.
Et ça, ça malaxe, ça forge cette nouvelle langue, cette langue française.
Cette langue française, et même l'allemand, parce que j'écris aussi en allemand, mais quand j'écris aussi en français, mon français est aussi influencé par le dialecte, le styrien, le dialecte autrichien.
Je crois que vous aimez beaucoup Kateb Yassin, fiston Mwanza Mujila, pourquoi ?
Il avait déjà un rapport à la langue française qui était un rapport de confrontation, un rapport de dialogue avec la langue qui disait le français pour nous qui écrivons dans cette langue est un butin de guerre.
C'est vrai pour vous aussi ?
Mais pas un butin de guerre. Pour moi, le français, c'est ma langue. C'est pas une langue qui appartient uniquement à la France. C'est la langue de mes parents, la langue de ma grand-mère. Et donc, je suis dans un rapport assez pacifique. Je suis dans un rapport pacifique avec la langue. Donc, pour moi, c'est ma langue.
Kateb Yassin.
Vous-même, lorsque vous écrivez directement en français.
Oui, j'écris directement en français, mais c'est assez compliqué, c'est un phénomène presque unique dans la littérature d'ailleurs. Depuis la crise et depuis que des générations nouvelles apparaissent en Algérie et sont impétueuses et veulent acquérir des formes nouvelles, il se trouve que dans la langue française, nous exprimons l'âme du pays. Nous exprimons un phénomène qui apparemment n'a rien à voir avec la langue française dans cette langue. Et il s'agit d'une espèce de... On ne peut pas parler de traduction à proprement parler, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Par exemple, pour ma part, toutes les impressions que je ressens, tout le travail intérieur de l'écrivain se fait dans ma langue maternelle, l'arabe, à la mesure où j'ai été éduqué dans le milieu arabe, où c'est la langue que j'ai parlé quand j'étais enfant et par laquelle j'ai été marqué. Et il se fait un curieux travail en profondeur à partir de ces impressions toutes fraîches, à partir du réservoir de la matière littéraire, vers l'élaboration en français. Les écrivains algériens, s'ils s'expriment en langue française, s'expriment pas seulement dans cette langue parce qu'ils y sont forcés. Dans cette langue, nous exprimons aussi notre originalité.
C'est exactement ce que vous pensez, fiston Mwanza Mujila. Dans la langue française, vous exprimez votre originalité avec vos ancêtres.
Oui, tout à fait.
Vos langues.
Oui, parce que la langue, il y a une culture. Et donc, moi, je viens d'une autre culture ou d'autres des types cultures. Donc, quand je suis dans cette langue-là, je pars avec aussi ma sensibilité. J'ai une histoire avec chaque mot. J'ai une histoire personnelle avec la langue que n'a pas peut-être un écrivain français. Mes parents, ils s'étaient décidés à ce qu'on parle de deux langues à la maison. Et donc, moi, je parle toujours le français avec mon père, le swahili avec ma mère. Du coup, par exemple, là, je peux dire que je ne suis plus un auteur francophone, un auteur de langue française, parce que je ne pratique pas la langue. Mais en même temps, le français que je ne parle pas au quotidien, mais j'écris dans cette langue, est une langue pour moi, une langue intérieure, une langue pas fictive, mais une langue qui est assez complexe, le rapport à la langue française. Oui, parce que vous écrivez dans cette langue, mais en même temps, mes arrière-grands-pères ne connaissaient pas un seul mot du français. Et donc, c'est comme si, à partir de cette langue française, j'ai créé ma propre généalogie.
Yeah. matinée. Oh, Bangani, merci. Merci, t'es mon soro.
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Fiston Mwanza Mujila, on vient d'écouter une chanson sud-africaine de Bongeziwe Mambangla. Vous connaissiez ce groupe?
Oui, oui.
Ah oui?
Ouais, il faut dire que moi je suis originaire à Lubumbashi, comme je le disais. Lubumbashi est la dernière ville francophone et donc on est proche de Johannesburg, de l'Afrique du Sud, que de Kinshasa, parce qu'on peut faire Lubumbashi, Johannesburg en bus, c'est pas très loin. Donc on est bercé aussi par l'influence de la musique sud-africaine. Moi j'ai découvert par exemple le jazz, ou d'une part grâce
le jazz sud-africain,
au jazz sud-africain. Il y a vraiment un dialogue culturel aussi entre le deux pays, mais d'autant plus que aussi comme l'Afrique du Sud qui est aussi un pays de la mine. Il y a une culture de gens de la mine, et j'appartiens aussi à cette culture-là. Tous les gens, les créateurs, les gens qui travaillent dans la mine chantent. Et donc, ces chansons influencent le jazz sud-africain, mais aussi d'autres chansons populaires de gens de la mine au Katanga. Et ces chansons ont beaucoup de correspondances, ces chansons qui parlent beaucoup de l'espoir, de la mort. C'est les mêmes thématiques.
Et ça aussi, ça habite votre écriture, ces chansons-là de la mine.
Ça habite mon écriture parce que je suis un enfant de la mine. Je pense que mon identité première, avant même d'être congolais, je suis d'abord un enfant de la mine.
Alors, 17 mai 1997, c'est votre journée particulière, Fiston Mwanza Mujila. En 1997, on écoutait ça. Vous reconnaissez?
Je reconnais. En fait, c'est assez magnifique parce que, par exemple, l'Afrique du Sud s'est libérée en début 90, fin 90, je ne sais pas, de l'apartheid. Et puis, nous, à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, en 97, c'était la chute de Mobutu. C'est un peu des années de folie. Très belle musique pour danser.
Ah oui, je vous voyais là, vous êtes un danseur.
Très bon danseur.
Alors, est-ce que vous savez que Wes a été le premier artiste africain à obtenir un disque de diamant en France en 97?
Aucune idée.
Mais ça aussi, ça me semblait intéressant à dire. Alors, en 1997, Lady Di mourait aussi dans un accident à Paris, ça vous savez, vous en avez entendu parler. Il y avait Chirac qui dissolvait l'Assemblée à la suite des élections et Jospin et Kiko commençaient sa cohabitation avec Jospin. En 97, le film Titanic sortait sur les écrans.
Oh! I can see the Statue of Liberty already. Very small, of course.
I'm the king of the world!
Bon. Vous avez évidemment vu ce film à Lubumbashi, Fiston Mwanza Mujila, vous l'avez vu là-bas?
Oui, je suis à Lubumbashi, ouais.
Et alors?
Mais ça avait fait la pluie et le beau temps, mais moi je trouvais que c'était lent, inutilement lent. Et puis moi j'aime les films d'action, donc j'avais 16 ans, presque 17 ans, Rambo dit on n'est pas sérieux à 17 ans, puis moi ça me gonflait, puis je trouvais que c'était lent, alors que moi je m'attendais un peu de Arnold Schwarzenegger, du quelque chose de très lourd, de très pratique, où les courses-poursuites avec les militaires, de l'éclatement, puis moi ça m'ennuyait.
Oui, ça passe.
Jamais vu jusqu'à la fin.
Alors, pour finir cette émission, dans votre livre, vous citez à plusieurs reprises un poète dont je n'avais absolument jamais entendu parler, qui s'appelle Kossovel, qui est le plus grand poète slovène, c'est ça?
Oui, oui, c'est l'un de plus grands poètes slovènes qui est mort assez jeune, mais qui est un visionnaire par sa poésie où il y avait une récurrence du thème de la mort. C'est un poète qui a vraiment inspiré la poésie slovène du XXe siècle.
Et alors, Peter Handke, que vous aimez aussi beaucoup,
oui, Handke,
a une très grande admiration.
Et puis, il vit près de Paris, à Chaville.
Ah. Oui, oui. Vous l'avez rencontré
ou... je prévois y faire un saut, mais aucune idée, mais comme je suis très pris, voilà. Et on a la même passion pour les champignons.
Avec Peter Handke.
Oui, c'est qu'il aime beaucoup aller dans la forêt... chercher, Samuel, comme on dit en allemand, récolter les champignons.
Et vous aussi?
Parfois, quand j'ai le temps.
Parce que vous vivez en Autriche, en Autriche, il y a plein de champignons.
Oui, oui.
On écoute quand même Peter Handke parler de Kosovel.
Oui, avec plaisir.
Et vous, Peter Handke, c'était une rencontre pour vous, Kosovel?
Oui. Quand il était très jeune, à l'âge de 18 ans, il écrivait comme on peut écrire, comme on souhaite à écrire. Il écoute. Il regarde pas tellement. Ce qu'il voit, ce sont les choses quotidiennes, mais ce qu'il entend, c'est plus profond chez lui que chez les autres poètes. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un peu les collines, le ciel, les oiseaux un peu. Mais ce qu'on entend, c'est beaucoup plus important ici.
Fiston Mwanza Mugila, vous êtes d'accord avec Peter Handke, Kosovel, c'est un poète des sons?
Un poète des sons, il y a beaucoup d'images de la nature et des fulgurances, des poèmes très courts, mais qui disent long. C'est comme le bon café, c'est très condensé.
Est-ce que vous en avez un sous la main à nous lire nous dire?
Oui, mon préféré.
Ouais.
Je vous montrerai un buisson. Ne me demandez pas où il pousse. Il pousse sur la lande, ou derrière les pins, ou derrière les rochers, sur le caste, ou dans mon cœur. Il pousse dans les rêves qui voient l'horrible, ou derrière les montagnes de l'avenir. Il pourrait pousser partout, c'est-à-dire en moi. Il pourrait ne pousser nulle part, c'est-à-dire auprès de moi. Je vous montrerai un buisson d'épines. Ne me demandez pas où il pousse.
C'est votre poème préféré?
Oui, oui.
De Kosovel. Et cette voix, Fiston Mwanza Mugila, c'est quoi cette voix quand vous dites un texte? C'est ça, la voix des ancêtres? C'est quoi cette voix, cette autre voix de vous?
Je suis moins en jeu là. C'est un condensé ou de moins en jeu là. Chimankinda, je porte les noms de mes ancêtres. Quand je dis le texte, je suis pas seul. Je suis avec mon père, ma mère, le fleuve Congo. Fait toute ma généalogie sur scène. Et donc là, je dis ce texte avec Julienne Momonza, ma grand-mère.
Merci, Fiston Mwanza Mugila, d'avoir passé cette heure avec nous, avec votre grand-mère, votre grand-père, Coltrane, Rimbaud, vos ancêtres, Mabankou et Bofane. Merci à vous.
Merci.
Votre dernier livre, La danse du vilain, est publié aux éditions Métellier. C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes, Alina Anne Delaveau, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Djenab Sangaré. On se retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et podcaster cette émission. Passez un bon week-end.